Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 297e épisode de notre podcast, un podcast consacré cette fois-ci, comme d'habitude, à des reviews. On a pas mal de choses qu'on a eu le temps de lire puisque de toute façon personne ne travaille. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 297e épisode de Comic Stories. Il y en a deux qui travaillent encore moins que les autres qui sont avec moi ce soir. C'est Erwan.
Salut.
Et Boris.
Salut, feignant professionnel.
Voilà, je pouvais pas m'empêcher. On va démarrer avec quelques news. Tout d'abord, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière émission qu'on a enregistrée, c'était les Awards. Donc rien en février, presque rien en mars. C'est dire si on a des choses à se raconter. Notre présentateur de JT préféré nous a concocté pas mal de news. Donc on va faire un petit pot-pourri de tout ça et puis peut-être échanger. Il y a certains gros trucs qui méritent quand même qu'on en dise deux mots, même si c'était ancien. Je te laisse démarrer, Boris.
Par le plus vieux, c'est ça.
Par ce que tu veux.
Ouais, bon alors, quand quelques jours après qu'on se parlait la dernière fois, Dan DiDio avait été renvoyé. Donc grosse déflagration dans le monde des comics quand même. Hein. Le monsieur faisait râler pas mal. Donc je pense qu'il y a eu des réjouissances. Et puis bon, je pense que ça va changer pas mal les plans de DC. Ça commence déjà.
Alors on verra ça quand le monde redémarrera. Mais voilà. En attendant, cette crise leur permet aussi de temporiser et de voir un petit peu comment ils vont faire. Parce que Jim Lee tout seul, je pense pas que ça le fasse très longtemps.
Oui, pour l'instant, a priori, pour l'instant, ils ont prévu de mettre personne avec lui. Mais bon, je pense qu'à terme, ça va être nécessaire. Et après, bon, voir quelle place va prendre par exemple Scott Snyder, puisqu'a priori c'était pas un grand fan de la future 5G, ce qui était prévu. Donc est-ce qu'il va remporter la mise ou pas, je sais pas, faudra voir.
Je lui propose de prendre la place de scénariste. Puis voilà. Non, qui pour remplacer Didio, franchement, j'en sais rien. Et je sais pas si je suis pressé de le savoir en fait.
Ouais, je pense que pour l'instant, bon, là on va attendre que la crise se passe et après ils vont peut-être prendre des décisions, quoi. Je pense que ça sera pas avant l'automne sans doute.
Ouais, non, c'est clair. Une fois les grandes conventions d'été passées, s'il y a des grandes conventions cet été, on en saura peut-être un peu plus. Mais pour le moment, c'est Jim Lee qui est au bateau, qui mène le bateau, et puis ben, on verra. Hein. On verra. Puisqu'on est du côté de chez DC, qu'est-ce qu'on peut aborder? Tom Taylor éventuellement?
Tom Taylor, qui va lancer son premier Creator Owned chez Boom. Jusqu'à maintenant, il a travaillé chez DC et chez Marvel. Et donc là, il se lance sa première série. Alors bon, en termes de délai, je ne sais pas quand est-ce que ça pourra sortir, mais voilà, c'est la première fois qu'il se lance. Et moi, je suis plutôt en général assez friand de ce qu'il fait. Donc j'irai jeter un œil sans doute au moment où ça sortira. Et en même temps, il a annoncé la suite de Deceased, puisque là, on a Deceased Unkillables, qui n'est pas la suite. Et là, ça va s'appeler Dead Planet, et a priori, ce serait la suite.
Ouais, il va nous faire le coup d'Injustice après les années 1, année 2 et compagnie. On va faire quelques saisons de Deceased, et à la rigueur, tant mieux, parce que ma foi, la première mini-série était super sympa, donc ouais, je prends.
Erwan, ouais, ça commence en avril d'ailleurs, donc bientôt, en avril, oui. Si tout va bien.
En avril du Nouveau Monde.
Ouais, Dead Earth, comme dit le nom.
Ouais, en plus.
Donc,
Et puis il y en a un qui était en retard, qu'on attendait depuis 2 ans, qui finalement a été annoncé, et puis finalement avec cette histoire-là qui arrivera encore plus tard que plus tard, c'est bien sûr le Street Jokers.
Oui, j'ai vu ça dans les sollicitations de juin. Pour l'instant, Street Jokers qui arrive dans le Black Label, sous le même format que l'Emir Sorrentino par exemple en trois parties. Bon, pourquoi pas, hein, on verra. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et qu'on en parle.
Au en tout final, cas Geoff Jones nous a promis que ça sortirait à l'heure.
Là c'est raté je pense, mais bon, oui, il a peut-être prévu le truc et donc ça va sortir, une fois que ça va repartir, ça va sortir régulièrement. Bon, c'est avec Jason Fabok je crois, donc
déjà, je pense que peut-être que là cette fois-ci il est prêt au niveau des dessins et que du coup il est sûr de pouvoir tenir la publication.
Ouais, voilà. Puis là, ils vont avoir un petit délai supplémentaire, sans doute, pour préparer
ouais,
leur
ouais.
truc. Donc, y a des chances qu'il n'y ait pas à attendre 6 mois entre 2 épisodes.
Ouais. Avec des jolis covers en plus. Hein.
Oui, non, elles sont sympas. Enfin, les premiers aperçus visuels qu'on a eu du projet, là, oui, ça fait envie, quoi. Tu parlais du format de l'émir et Sorrentino sur Killer Smile. On a appris il y a déjà un petit moment, hein, et a priori ça va sortir assez vite une fois que les affaires reprendront, puisque c'était déjà annoncé dans les sollicitations. C'est après le Joker Killer Smile, Batman Smile Killer, un one shot.
C'est le Batman ou c'est le Joker Smile Killer?
Batman Smile Killer.
Ah bah toi, je me suis dit, ouais, j'avais pas fait gaffe. Donc un one shot supplémentaire, hein. Donc bon là, moi j'en suis qu'à la deuxième partie, j'ai pas lu la troisième partie, mais ça c'est une mini-série assez agréable, donc on ira voir la suite, enfin la suite, ce one shot supplémentaire. Hein.
Bah, j'ai lu la fin, j'ai terminé. La mini dans son ensemble, c'est vrai qu'elle est très sympa, très bien écrite, superbement. Enfin, c'est super graphiquement, il n'y a pas de souci. J'étais un petit peu déçu par la conclusion, mais bon, ça n'aurait pas pu être autrement en fait. Et il fallait qu'il range les jouets, il fallait qu'il remette les choses, enfin, qu'il fasse une conclusion qui renverse pas non plus la table, parce que c'est qu'une mini-série en 3 épisodes, il peut pas non plus réinventer la roue. Donc voilà, j'en attendais peut-être un petit peu trop de ça, mais en tout cas, globalement, les trois ensemble, ça fonctionne super bien. Donc ce petit one-shot un peu miroir avec Batman, ouais, ça me plaît bien, ça.
À voir, ça peut être sympa. Ouais.
Du côté de chez DC, on a tout fait. Ah non, Animal Man par
Un
Grant
petit dernier.
Morrison.
Voilà, alors celui-là, je ne sais pas si beaucoup l'ont suivi. Moi, je l'attends depuis la lecture du premier, hein, puisqu'ils avaient décidé de ressortir la série Animal Man de Grant
Oui.
Morrison pour le 30e anniversaire, je crois, ça s'appelait. Et le book 2 ne venait pas, donc je commençais à me demander s'ils n'avaient pas fait que le 1 pour voilà, faire le coup de l'anniversaire, et puis après ils allaient laisser tomber. Mais non, le livre 2 est prévu pour septembre, donc là ça va être
Bonne nouvelle.
c'est déjà précommandé. Donc
Évidemment.
ah ouais, c'était le premier volume était énorme. Alors je crois que ce sera que en deux tomes, hein, puisque je crois qu'il y a 13 et 13 épisodes, donc 26. Donc là, ça va être une grosse lecture de la rentrée.
Alors, on n'a pas trop de news concernant Marvel, enfin pas trop d'annonces qui nous ont vraiment marqué là sur les quelques semaines qui viennent de s'écouler. Il y a juste Erwan qui a noté quelque chose. Un petit versus
Oui.
qui tente de se
Alors, c'est
faire.
pas forcément. Alors, qui se tentent de. En fait, les scénaristes sont comme nous, ils sont confinés en ce moment chez eux.
Donc il s'ennuie.
Et
Non.
ils s'ennuient en fait sur Twitter. Si certains suivent leur scénariste favori, ils ont sûrement dû voir que Gail Simonet a fait un appel avec le hashtag Please Marvel DC en proposant en fait des crossovers du style Vision Mister Miracle par Tom King, Tom Wonder Woman par Donny Cates, Superman Spider-Man par Brian Bendis. Et elle demande en fait aux gens de proposer d'autres trucs qu'ils aimeraient voir. Et Scott Snyder a même relancé en disant que s'il faisait un crossover DC Marvel, il serait OK pour écrire un Batman contre tout le monde.
Oh.
Ah, c'est étrange.
Il a failli me faire plaisir en disant un truc intelligent, celui-ci.
Donc il y a peut-être quelque chose derrière, peut-être aller chercher au niveau des maisons d'édition pour faire un peu pression, ou leur
Ouais,
dire que clairement, s'ils
clairement.
font ça, on achète direct.
Ouais,
Il y a même
la bonne
Tom
époque des années
Taylor.
90 avec tout ça. Ouais, je veux bien
Et Tom
revoir.
Taylor qui aimerait bien faire un X-Men Justice League crossover.
Ouais, ça aurait de la
Moi,
gueule.
je dis
Ça
oui, je dis
aurait de
clairement
la gueule.
oui.
D'autant plus qu'avec la crise qu'on est en train de traverser, que le monde des comics va forcément traverser aussi, hein, les éditeurs, les comic shops, etc. Pour relancer la machine en termes économiques, faire revenir les gens et rapporter un petit peu, renflouer les caisses à la fois des comic shops, des éditeurs et de Diamond et de compagnie, il n'y a pas mieux, clairement.
Ce serait carrément. Mais je pense que moi perso, j'irais direct. Hein.
Ouais, pareil.
S'ils sortent même 30 séries, je vais direct.
On se
Avec le
doute
nom qu'il y a et les
que ça
crossovers.
serait complètement anecdotique et juste du fan service et machin et tout ça, mais à la rigueur, ouais, je demande, j'en demande, hein, y a pas de souci.
Ouais.
Donc à suivre de très près, belle initiative de Gail Simone, du coup. Guettons ça. Et du côté de l'indé, Boris?
Alors, du côté de l'indé. Il y a le fils de Sean Phillips qui colorise la série Criminal avec Sean Phillips et Ed Brubaker qui va lancer sa propre série. Alors, le numéro 1, je crois, a été prévu pour bientôt. Donc, ça va être sans doute repoussé. Dans l'ambiance polar, je pense qu'on reste dans la même veine que son père
Oui.
et Ed Brubaker. Donc, moi, j'irai voir. Hein. Les premiers visuels qu'on a eus donnent bien envie. Donc voilà, c'est une piste que je vais suivre facilement.
Ouais. Et puis alors que la saison 2 est en préparation, on nous parle d'un retour pour The Boys.
Bah, j'ai vu ça, voilà. Une mini-série qui sera qui aura pour sujet la campagne de Butcher. Alors je sais plus avec qui dessinera, mais bon voilà, moi je suis en plein dans ma relecture de The Boys en VF, même si j'ai pas lu le tome suivant. Je devais faire un tome par mois, j'ai un peu ralenti. Mais bon, j'ai acheté un œil, je pense que ça peut être sympa. Et puis la Garth Ennis en ce moment fait du Punisher soviet,
ouais.
qui tient bien la route, donc bon, il a l'air d'être encore en forme. À voir.
Quibi, qu'est-ce que c'est ?
Bonne question, parce que la news, je l'ai notée il y a super longtemps, et je sais plus. C'est une plateforme aux États-Unis, mais qui est assez restreinte. C'est une plateforme sur laquelle va être adaptée notre série chouchou Ice Cream Man.
Animation ou vrai acteur ? On n'en sait peut-être pas encore.
Non, on ne sait pas encore trop. J'ai vu, c'est Maxwell Prince qui en a parlé l'autre fois. J'ai juste vu ça, un post sur Instagram, mais je n'ai pas creusé davantage.
Bah, c'est un service qui n'est même pas lancé encore, Quibi. Ça sera lancé le 6 avril 2020. Enfin, c'était prévu d'être lancé le 6 avril 2020. On ne sait pas trop si ça le sera véritablement, du coup. Voilà, une plateforme vidéo mobile américaine.
Voilà.
Donc, bon. Quelqu'un qui va venir se mettre un petit peu sur le marché, comme s'il y en avait besoin, et qui en tout cas prévoit d'adapter à Ice Cream Man, donc bonne nouvelle.
Oui, bah oui. Bon. Après, moi je vais déjà me contenter de la série papier, qui est toujours aussi bonne.
Ah, toi, les adaptations.
Si, j'en suis à l'épisode 4 de Daredevil. J'ai regardé le 3 et le 4 là, récemment.
Bon, il faut encore quelques semaines de confinement et c'est bon.
Bah ouais,
tu finiras au moins la saison, hein. Du coup. Allez, dernière news.
Comme je ne travaille pas beaucoup, ça va.
Oui, c'est vrai. Dernière news, Bliss.
Bliss de Sean Lewis et Kathleen Yarsky. Sean Lewis, c'est Thumbs et The Few, avec Aiden Sherman, que j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est ce duo d'auteurs, c'est Coyotes, que je n'ai pas lu, qui est sorti chez iComics, je crois, ou chez Glénat, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps.
Okay.
En VF, mais que j'ai pas lu, donc je sais pas trop. Ça a l'air. Enfin, les deux, quand ils travaillent avec Aiden Sherman, il y a quand même la partie graphique, hein, qui est très marquante. Avec cette dessinatrice là, c'est un petit peu plus classique, on va dire, conventionnel. Je sais pas, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, j'ai vu Sean Lewis, je me suis dit tiens, ça peut être à voir.
Pourquoi pas. On va se faire quelques reviews VO avant de parler de VF et puis notamment d'actu VF avec les éditeurs, ce qui se passe en ce moment et les belles initiatives de certains éditeurs aussi. On va se faire notre partie VO et puis après on fera tout ce qui concerne la VF. Erwan, en VO, tu as un petit truc sur ta pile à chroniquer?
Ouais, alors j'ai rattrapé mon retard un petit peu parce que j'avais des tomes qui traînaient depuis un petit bout de temps, notamment les Teen Titans, nouvelle génération là, avec
Adam Glass.
Adam Glass. J'avais deux volumes qui traînaient, je les ai lus là, en confinement. Alors, j'adore les séries un peu avec des teams un peu jeunes, ce qui va être Young Justice, Teen Titans, j'adore. Là, j'ai un peu de mal avec cette nouvelle mouture parce que les nouveaux personnages qui sont présentés, c'est-à-dire il y a Crush qui est la fille de Lobo, Roundhouse, on ne sait pas trop. Et Jean qui est une génie. Voilà, c'était un peu ambitieux comme projet d'amener ces personnages-là qui sont un peu inconnus, voire certains qui sont nouveaux. Mais je trouve que ça marche pas des masses en fait. C'est vraiment trop teen. Ça, je sais pas si tu l'as lu, toi, Mathieu.
Ah oui, je le suis en single, hein, donc ouais, je le lis, aucun souci. C'est vrai que les persos, c'est pas ceux qui me font le plus rêver. Crush la première, je peux pas. Enfin voilà, juste peux pas. Donc des fois il y a des singles où c'est juste elle au centre de tout et bah je le subis un peu celui-là. Mais pour le reste j'aime bien quand même la façon d'écrire d'Adam Glass. Qui amène son intrigue générale et qui n'oublie pas ses persos en route et qui va leur donner à chacun des histoires qui avancent en parallèle. Et ça, c'est le genre de construction que j'aime bien sur les séries d'équipe, surtout les séries teen. Après, c'est pas la meilleure version des Teen Titans qu'on ait lu, on est d'accord.
Non, et puis le problème, c'est qu'en fait, alors, c'est l'impression que j'ai, c'est que ça prend en fait tous les trucs qui ne fonctionnent pas ou qui sont un peu, on va dire, chiants dans les séries télé pour ados. C'est-à-dire, c'est tous les problèmes de jeunesse avec il boude, pourquoi, des machins. Très enfantin, et ça fait pas avancer l'histoire, notamment Crush, là tu l'as dit, avec son père, elle est toujours, elle veut pas être son père, mais en même temps elle veut être comme lui, elle sait pas trop où elle appartient, ça tourne trop en rond.
Ouais, je comprends.
Donc, j'attends de voir la suite, avec Deathstroke, mais je sais pas si je vais tout faire.
Ah, t'en es pas arrivé à la partie Deathstroke et compagnie, ok. Parce que moi, sur les derniers mois, là, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Les deux derniers arcs notamment. Donc je sais pas si t'en as lu un des deux toi. Mais face à Deathstroke, je le trouve assez cool. Et il y a un truc qui va se passer à la fin de cet arc-là qui va faire un peu grandir les gens, on va dire. Donc Moi j'aime bien, surtout sur la deuxième partie du run, là, sur les deux derniers arcs. Donc après je comprends pleinement les arguments, surtout quand t'accroches pas au personnage, parce que c'est pas ce que tu voulais forcément voir dans cette série-là. Donc puis on n'a plus de Titans de toute façon, donc on est obligé de se contenter d'eux, j'ai envie de dire.
C'est ça.
Là pour le coup. Pour ma part, alors en version originale, de toute façon j'ai pas lu de VF quasiment récemment. En VO, et ben Finger Guns, tiens. Finger Guns, c'est sorti chez Vault, donc c'est un petit éditeur indé aux États-Unis. C'est écrit par Justin Richards et dessiné par Val Alvorson, des noms qui vous diront peut-être rien, c'est pas grave. Le finger gun, c'est quoi? C'est le pistolet qu'on fait avec ses doigts. Quand on était gosse, on a tous fait ça, le pistolet avec les doigts et tirer sur des gens et faire pente et mort, ou juste quand on joue dans la cour de récré ou peu importe. Mais imaginez que ce petit pistolet là que vous faites avec les doigts, il fonctionne vraiment. Mais qu'il fonctionne vraiment pas pour tuer des gens, mais pour manipuler leurs émotions. Selon si vous mettez un doigt ou deux doigts pour faire votre pistolet, vous allez manipuler les émotions de manière positive ou négative. Et c'est ce que deux jeunes gens vont découvrir complètement par hasard en utilisant ce finger guns dans leur vie quotidienne pour s'amuser ou pas. Enfin, voilà, c'est un geste qui est assez réflexe pour l'un d'entre eux en tout cas. Sauf qu'un jour, bah, ça va déclencher quelque chose, ça va manipuler la personne qui est en face de lui, et puis il va se rendre compte qu'il y a une jeune fille qui a aussi la même capacité. Et ben, la rencontre entre les deux risque de faire des étincelles, je pense. Ils viennent juste de se rencontrer à la fin du premier épisode, il n'y a que ça qui est sorti pour le moment. Ils en sont juste à la phase de découvrir leur pouvoir. C'est assez intéressant, c'est drôle. Les deux persos fonctionnent assez bien ensemble. J'ai pas les prénoms en tête parce que j'ai pas fait l'effort de les retenir, j'avoue. En tout cas, la jeune fille, moi, elle me fait bien rire, elle est assez piquante. Et j'aime bien ce qu'elle raconte et ce qui nous est annoncé pour la suite. C'est une petite série que je vais suivre, je pense, d'assez près. J'avais pris ça sur la base de la cover, une super variante cover de Jenny Hickman. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais voir le pitch, ouais, ça me plaît. Et puis en fait, ouais, le numéro 1 m'a bien accroché et je vais continuer. Je vais continuer ce truc-là. J'imagine que vous n'en avez jamais entendu parler.
Du tout.
Non, pas du tout.
Bon bah voilà, si un jour vous voyez passer un TP ou quelque chose, je pense que j'en reparlerai quand les prochains numéros sortiront, peut-être une fois qu'un premier arc sera terminé pour voir un petit peu où ça va, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de promesses, on découvre deux personnages super sympathiques. Ce petit concept du finger gun qui manipule les émotions des personnes, c'est intéressant. Le petit teasing qu'on nous fait dans le résumé à la fin, ouais, il est alléchant, donc voilà, pour le moment c'est des promesses. Maintenant je vais attendre de voir la fin du premier arc et puis de voir un petit peu ce que ça donne, et puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais ça peut donner un truc à surveiller, clairement.
C'est même pas une mini-série du coup, c'est vraiment une régulière.
Bah, c'est pas facile d'avoir l'information, hein, surtout quand c'est un petit éditeur, mais en tout cas c'est pas annoncé dans l'ours là, c'est pas marqué one of quelque chose, c'est juste number one. Donc je pense que c'est une régulière, ouais. Enfin une ongoing du coup.
Oh, une going, ouais.
Je pense, ouais. Boris, est-ce que tu vas me convaincre que Family Tree, c'est finalement pas aussi mauvais que ce que j'avais vu au numéro 1?
Alors, te convaincre, je sais pas, mais c'est toujours toujours bien sympa. Donc c'est Jeff Lemire et Phil Lester au dessin, toujours. Le pitch de départ, c'était une petite fille qui doucement se transformait en arbre, hein, pour faire simple. Et donc sa mère, voulant essayer de savoir pourquoi, finissait par rencontrer son beau-père qui lui révélait un certain nombre d'informations. Donc je me souviens, ce que vous n'aviez pas aimé, c'était un petit peu le côté trop classique pour du Jeff Lemire, je crois, dans le premier épisode.
Ouais, trop classique et trop pas assez surtout.
oui, pas assez. Alors après, je me souviens qu'on avait parlé de vous aviez lu la
La
sollicitation et pas
sollicitation,
moi,
ouais.
donc ce qui fait que voilà, ça a changé un petit peu le point de vue. Depuis, moi, je suis en single et c'est toujours bien agréable. Alors c'est un mélange de polar, un peu de thriller quand même. Il y a une vraie partie thriller et Jeff Lemire a su amener un peu de fantastique quand même dans son histoire. Et franchement, ça se lit super bien. C'est vraiment chaque épisode est agréable avec un bon cliffhanger à chaque fois. Là, on en apprend encore un peu plus sur le passé, puisqu'il y a un lien avec l'ex-mari de la mère. Non, c'est bien fichu. Alors, c'est peut-être pas super original. Jeff Lemire a peut-être fait des choses un petit peu plus originales. Et les thèmes sont des thèmes qu'il aborde dans d'autres séries, hein, la famille. voilà ce genre de choses. Mais non, franchement, c'est bien sympa à lire. Je pense que en TP, tu pourras aller jeter un œil et tu verras si ça te relance un peu, ça avance pas mal. C'est bien.
Ok.
Je suis pas convaincu.
Je prendrai. Non, mais le TP1, je crois qu'il a été annoncé et il me semble que je l'ai mis de côté dans une liste de préco quelconque. Donc, si, je veux quand même. J'avais dit que je testerais le premier arc une fois que ça serait sorti pour voir si ça raconte au moins ce qui était promis et pour pouvoir éventuellement continuer après. Mais en TP, c'est clair, hein, ça sera pas du single pour ça. Mais je donnerai quand même peut-être une chance au TP, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Erwan, qu'est-ce que tu as d'autre ?
En VO, que j'ai d'autre ?
Peut-être pas grand chose, vu le gros morceau que t'as lu en VF, tu peux ne pas avoir grand chose en VO.
Si, j'avais enfin lu Female Furies.
Ah oui.
Mais je sais plus si on a déjà parlé ça la dernière fois.
Je crois que.
Après,
je sais pas si tu. Ouais, t'avais lu le premier, après, vu qu'on discute aussi en parallèle, peut-être que tu nous avais parlé sur la conversation, je sais plus. Mais vas-y, sur un bilan global.
Ouais, donc j'avais parlé de la première issue, je crois.
Possible.
Donc là, voilà, le recueil entier est sorti. Alors, j'ai plus en tête les scénaristes, mais ils n'étaient pas connus, de toute façon. bah, en fait, l'histoire, c'était cohérent à ce que j'avais dit sur la première issue, en fait. C'est vraiment axé sur le féminisme au sein des héros et de l'abus de pouvoir qui peut se faire au niveau du patriarcat, en fait, de Darkseid. Donc, en fait, tout ce que j'avais dit sur le premier, c'était valide. Hein. C'était toujours aussi bien tout du long. C'était bien maîtrisé. Le seul petit problème que j'ai trouvé au niveau de cette lecture, c'est qu'en fait, ça va trop loin dans le féminisme. Alors, c'est ça que je me suis pris la tête avec certaines personnes là-dessus quand j'ai fait ma petite review sur Instagram.
Sujet dangereux.
Mais scabreux, là.
Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que la finalité en fait, de ce récit, c'est de remplacer entièrement les hommes.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le patriarcat n'en veut plus, on veut que des femmes.
Okay.
Et moi, ça m'a un peu dérangé, en fait, ce discours-là. Alors que c'est quand même mieux de vivre tous ensemble.
Oui, dans le sens, pour corriger le curseur, on va le pousser à l'extrême.
Oui, alors ils ont quand même mis le petit espoir avec Mister Miracle, qui reste quand même la petite plus-value. Les hommes sont gentils, les hommes font les choses bien, et un homme peut faire changer la vision des choses. Et il n'y a vraiment que lui pour ça, en fait, dans ce scénario. Donc c'est un peu bizarre qu'il y ait un seul personnage pour ça. C'était intéressant à lire, ça restera pas forcément mémorable, je pense, mais de voir ça dans les comics, c'est bien.
Ça a le mérite d'exister, en tout cas ça avait fait discuter à l'époque où c'était sorti, je me rappelle. J'avais pas lu parce que je sais pas, ça m'intéressait sans m'intéresser, et puis il y avait tellement d'autres choses qui sortaient à ce moment-là. Mais ouais, ça avait.
Et le petit plus, c'est que ça a été développé autour de d'un ancien, comment dire, un ancien numéro, c'est-à-dire que ils ont pris un numéro de Force World qui a vraiment existé et il y a 20 ans je crois, et ils ont développé tout un truc autour de ça. Donc c'est pas non plus un truc qui est à part, à côté, ou ça a aucun rapport avec la continuité, c'est vraiment un truc qui a été développé en lien avec ce qui existait déjà.
Ça vient de Monsieur Kirby. Pour l'équipe créative, c'était Cécile Castellucci au scénario et Adriana Mello au dessin.
C'est ça.
Boris, tu as une petite. Allez, on va rester dans Maxwell Prince. Je te propose que moi aussi j'ai un titre de lui après.
Ok, pour Ice Cream Man.
Allez,
18.
Que je n'ai pas lu.
Tu n'as pas lu ?
Non.
Bon, il faut que je fasse attention alors, on ne pas révéler.
Puisque notre fournisseur n'a pas été livré en assez grande quantité et que je n'avais pas pu avoir mon numéro.
Ah oui, tu t'es fait piéger. Ouais, ça arrive ça des fois, c'est casse-pied. Surtout que cet épisode est encore un épisode. Excellent. Donc c'est Maxwell W, Maxwell Prince, Martin Morazzo et Chris O'Halloran aux couleurs, dont je recommande les excellentes interviews sur le site.
Bah oui.
Un petit peu de pub. Donc, c'est une série anthologique, hein, donc un épisode avec une nouvelle histoire, un nouveau contexte. Donc là, on voit un homme mal en point, qui est au seuil de la mort à l'hôpital et qui va avoir la visite de son fils puis de sa fille et qui vont lui parler, lui rappeler des souvenirs et lui en même temps perd la mémoire. Et puis il y a le côté fantastique comme d'habitude, il y a des petits gremlins qui apparaissent et qui interviennent. Alors on ne sait pas si c'est lui qui les voit, il n'y a que lui qui les voit ou s'ils existent vraiment. C'est le côté Ice Cream Man qui intervient. Voilà, je vais pas en dire plus, sinon tu vas pas avoir envie d'aller.
Non, j'irai. Bon, c'est clair, je vais m'arranger pour le récupérer.
Non, mais je vais pas révéler le
twist, non, évidemment.
Le twist, voilà, l'essentiel de l'intrigue. Encore une fois, c'est super bien écrit. Alors l'épisode, voilà, je préviens pour ceux qui l'auraient pas lu, qui veulent le lire, faut pas le lire un soir de déprime, hein, sinon c'est pas bon du tout.
C'est. On peut attendre quelques semaines alors.
Voilà, tu peux peut-être attendre. C'est quand même assez glauque, assez triste. C'est très bien vu sur la relation familiale entre le père et ses enfants, la,
La fin de vie aussi, j'imagine.
La fin de vie, voilà. C'est vraiment super bien écrit, mais alors, ça réjouit pas. Hein. Clairement, moi, quand je l'ai lu, ça m'a un peu plombé. Donc, voilà, mais par contre, l'objectif, c'était ça, quoi. Hein. Donc, c'est l'objectif est atteint et c'est super bien écrit. Toujours aussi bien dessiné, dans son style un petit peu particulier par Martine Morazzo. Encore un gros coup de cœur, quoi, pour cet épisode. Et je trouve que ça baisse pas, là. Hein. L'hommage à All-Star Superman qui était très très bon dans son genre. Je pense qu'on va avoir quelques pépites jusqu'à la fin de la série. Alors je sais pas si ça va s'arrêter au 24 ou pas. Ça va dépendre sans doute de pas mal de choses qui vont venir. Mais
puis comme t'as pas réussi à gratter l'information.
Non, j'ai pas réussi à gratter grand chose de ce côté-là. J'avoue que ces réponses m'ont laissé un petit peu pantoise par moment.
Interview W. Maxwell Prince sur le site. Là, allez jeter un œil, ça vaut son pesant de cacahuètes. Quoi. Mec, voilà. Il faut le lire.
Il est aussi barré, voilà. Il est aussi barré dans la vie que dans ses histoires, je pense. C'est un peu ça. Donc, non, gros coup de cœur. Ceux qui apprécient l'histoire, enfin la série, pardon, enfin, via les yeux fermés, c'est encore du très bon.
Du très bon. Est-ce que c'est la marque de fabrique du coup de Maxwell Prince, puisqu'il s'est lancé dans un nouveau projet chez Boom Studio qui s'appelle King of Nowhere, avec les dessins de Tyler Jenkins et les couleurs de Hilary Jenkins, la compagne de Tyler du coup. De quoi ça parle? C'est une histoire assez simple, hein. C'est Dennis qui se réveille un jour au milieu de nulle part. Lui, il pense qu'il se réveille après une bonne cuite. Il se rappelle pas trop d'où il est, de ce qu'il a fait la veille. Donc du coup, il va marcher un peu pour voir un peu les environs. Et il va découvrir une petite ville juste à côté de là où il s'est réveillé. Une ville qui semble s'appeler Nowhere. Et là, tout va partir en couille, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il va croiser un homme avec une tête de cerf qui conduit une voiture et qui va s'arrêter pour lui parler. Il va arriver au bar, le barman a la tête à l'envers, un homme poisson va venir s'asseoir à côté de lui et discuter, va arriver un mec à six bras, enfin bref, tout part en vrille, clairement, enfin d'une page à l'autre, là les choses partent complètement en vrille. Et ben, lui, il se retrouve au milieu de ce monde-là, il est persuadé qu'il rêve, enfin, c'est pas possible que tout ça existe, enfin c'est fruit de son imagination, ou alors il est encore en plein trip. Mais en tout cas, ça, c'est pas la réalité. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que par un événement particulier, que ben si, c'est peut-être bien la réalité en fait. Et ben du coup, on se retrouve embarqué dans un univers qui n'a pas vraiment de sens, qui semble ne pas avoir la moindre limite, parce que du coup, on est tellement parti dans des délires et en fait, on est dans un titre où quand on tourne la page, ce qu'on va découvrir derrière, ça pourrait très bien être la dernière page de la série, comme ça, sur un claquement de doigts ou sur je ne sais quel événement. Et en fait, on est en permanence dans... alors, je tourne la page, je continue, mais en fait, ça peut s'arrêter à tout moment. Le n'importe qui peut mourir à tout moment, ou il peut arriver je ne sais quoi qui disparaît, qui apparaît. Donc, on est clairement dans un truc où chaque page va être une surprise, et encore plus chaque numéro. On va lire un nouveau numéro, on ne sait absolument pas où on va. Maxwell Prince a clairement décidé de nous retourner la tête à chaque numéro, voire à chaque page qu'il écrit. Et c'est une sensation à la fois déstabilisante, et à la fois super stimulante, et on a envie de savoir. On a envie de la tourner, cette page, et de voir si, bah, oui ou non, les choses vont s'aggraver ou partir encore plus de travers, ou si finalement ça va finir par rentrer dans l'ordre, ou si bah, peut-être que d'une page à l'autre, le mec va se réveiller, ça se trouve, et voilà. Tout est possible, tout est envisageable dans ce numéro, et la seule chose qu'on sait à la fin de ce premier, c'est qu'on sait rien du tout. Et moi, ça me plaît plutôt. Et les dessins de Tyler et Jenkins sont assez cool aussi, ils collent bien, ça colle bien à ce genre de délire. Toutes les créatures, là, les designs qu'il a dû faire, le mec, l'homme poisson, le mec à tête de cerf et tout ça, voilà, on sent qu'il s'est pas mal amusé sur ce truc-là. Et ça sera peut-être une mini, ça sera peut-être une ongoing, ça pareil, c'est difficile de savoir, surtout chez Boom, hein, qui lance beaucoup de mini et qui deviennent finalement des ongoing. Pour le moment, c'est une mini en 5, mais bon, si ça marche, qui sait. Donc voilà, un petit projet complètement fou, un peu taré, beaucoup même. Moi ça m'a bien plu. Vous l'avez peut-être pas lu.
Ben, c'est dans mes colis qui n'arriveront pas tout de suite. Je l'ai bien précommandé mais je l'ai pas eu. Je l'ai pas lu donc non, j'ai pas. Mais bon, j'ai hâte.
Rien que cette cover, on voit Dennis assis sur un banc au milieu d'une route avec la route qui finalement est liquide parce qu'il a les pieds dans l'eau et qui tient une espèce de ballon poisson. Enfin voilà, ça raconte déjà pas mal de choses sur le délire qu'on va voir à l'intérieur. Donc cool. Erwan, tu as d'autres choses ou pas de VO?
En VO, non.
En VO, non.
Alors, j'ai plein de trucs à lire, je les ai pas lus.
Alors Boris, je vais te laisser faire une petite salve.
Petite série. petite envolée.
Une petite envolée, alors, ouais.
Allez, par quoi je vais commencer sur ma pile, par Criminal, épisode 12, qui clôt le grand arc Cruel Summer, qui est un arc en 8 parties, donc c'est Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips aux couleurs. J'en ai déjà parlé, hein. Moi c'est coup de cœur sur coup de cœur cette série, tous les épisodes. Ça finit évidemment dans le sang, la violence, c'était prévisible. La fin, puisque dès le début dans la narration, dès le début de l'arc, voire même dès le début de la série, dans le premier épisode, il révélait un petit peu le destin du personnage principal. Donc là-dessus, pas vraiment de surprise, mais sur la forme, beaucoup de surprises. Toujours un sens de la narration de Ed Brubaker assez incroyable dans le style polar. Il maîtrise toujours aussi bien ses personnages et son rythme. C'est vraiment... moi j'aime beaucoup. Au dessin, et pas mal, j'aime bien aussi les dessins. J'avais trouvé, je l'avais déjà dit, qu'il était meilleur sur Killer Be Killed. Je trouve que c'était plus précis, plus net, ses dessins. Bon, là, c'est peut-être volontaire un peu d'avoir un petit côté un peu brouillon, quoi, pour la série Criminal. Les couleurs de son fils Jacob viennent rajouter un plus indéniable. C'est vraiment un style particulier au niveau des couleurs, puisqu'il fait, on dirait que c'est comme des taches qu'il vient déposer et qui débordent des silhouettes et des formes. Il ne suit pas les formes en fait du dessin, donc il y a des couleurs qui débordent un peu partout et ça donne un ensemble assez bluffant et assez génial. Donc conclusion est réussie, ça il n'y a pas de problème. C'est le numéro 12, pour l'instant il n'y a rien de sollicité, donc je n'ai pas vu passer d'infos. Est-ce que c'est terminé pour cette nouvelle série ou est-ce qu'il y aura un nouvel arc dans quelques mois?
Un bon gros relié intégral.
Bah oui, parce que là il y a 8 épisodes. Alors il y a l'épisode 2 et 3 qui sont sortis en TP qui s'appelle Bad Weekend. En français, c'est chez Delcourt, Sale Weekend qui vient de sortir et dont une review va arriver sur le site qui forme donc un arc en deux. Donc ça, c'est déjà sorti. Donc il reste le 1, le 4 et après le grand arc. Donc je pense qu'ils peuvent faire un bon gros volume avec le 1, le 4 et les 8 numéros qui suivent. Ça, c'est quasiment assuré. Après, je sais pas ce qui est prévu. De toute façon, les séries entre guillemets précédentes, ça faisait un TP à chaque fois à peu près, hein, 6 numéros. Donc là, ça fera un petit peu plus. Je pense qu'ils vont sans doute faire une pause et revenir plus tard, mais j'ai pas vu d'infos. Donc, mais là, c'est la première fois que je le suis en VO et en single, vraiment, vraiment excellent.
Parfait. Et tu as aussi continué Bitter Root, qui vient de reprendre après une pause après le premier arc, c'est ça, hein?
Voilà, tout à fait. J'ai suivi en single le premier arc, et à la fin du premier arc, je m'étais dit je vais arrêter. C'était sympa, mais je trouvais que ça tournait un peu en rond. Et j'ai relu tous les singles à la suite pour la sortie à l'occasion de la sortie VF chez iComics là en janvier. Et j'ai eu un avis différent, c'est-à-dire que lu à la suite, c'était vraiment excellent. Et en fait, le dernier épisode, même s'il y avait un peu beaucoup d'action pour moi, ça je l'avais signalé, apporter vraiment des choses fantastiques qui étaient bien fichues, et qui finalement, quand j'ai fermé l'épisode 5, je me suis dit mince, j'ai été dans la foulée précommander le 6 qui était annoncé, et donc j'ai repris, et honnêtement ça continue sur le même niveau, ça, donc on reprend exactement au même endroit que là où ça s'était achevé pour le premier arc, et il traite d'emblée les conséquences, et ça mêle toujours récit un peu social, puisque ça se passe à Harlem dans les années 20, récit familial, puisque on suit une famille qui combat le mal, qui s'incarne par des monstres, et puis beaucoup d'action et du fantastique, puisque là, à la fin de l'épisode 5, on avait une partie avec un passage temporel, on va dire, et ça mêle tout ça, et j'ai accroché d'entrée directement à ce deuxième arc, donc je suis bien content d'avoir repris. Les scénaristes, c'est David Walker, Chuck Brown, et le dessinateur, c'est Sanford Green. Sanford Green, donc j'aime beaucoup le trait, hein. C'est assez un peu caricatural sur les visages, mais c'est fait pour, et hyper dynamique, une mise en page assez originale, et non, très bonne, finalement très très bonne série, et qui continue sur sa lancée.
Ok. Le temps que tu respires, avant de passer à Suicide Squad, je vais juste parler de 2-3 bricoles moi que j'ai lu. Alors vraiment en quelques mots, histoire de faire un petit point sur des choses dont j'avais déjà parlé par le passé, pour dire que le Daredevil de Chip Zdarsky est toujours incroyable. que le Batman de James Tynion IV a du mal à décoller, je trouve, malgré un casting au dessin. Yorey Jiménez, il a bossé avec qui? Avec Tony Daniel, enfin voilà,
Guillaume Marche.
Guillaume March. La partie graphique, ouais, elle est au sommet, par contre le scénario, ça décolle pas, je sais pas, c'est hyper poussif, on n'est pas habitué à ça chez Tynion IV, et bon, je suis vraiment encore sur la retenue, ça fait 5-6 numéros, ou 5, je sais plus, qu'il a déjà fait, et bah, j'attends toujours que ça m'accroche vraiment, donc bon.
Moi j'ai lu les trois premiers, je crois, du run.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas, on se dit pas vivement l'épisode suivant, quoi. C'est
Complètement,
vraiment,
complètement.
c'est plan-plan, quoi. C'est pas très passionnant, c'est pas mauvais, hein. On s'ennuie pas. Enfin moi je me suis pas
Il y a
ennuyé,
un numéro qui est un peu chiant aussi,
mais
le 90, je crois. Celui-là.
alors, j'en suis pas là, moi. J'ai pas été jusque-là, je trouve qu'on reconnaît pas trop la patte Tynion IV
Non, pas du tout.
sur Detective Comics ou moi j'ai lu Justice League Dark. Il y avait vraiment une patte, voilà, une construction, un sens du rythme. Et là, on a l'impression qu'il est un peu le fessier entre deux chaises, entre gérer ce qu'a laissé King et puis ce que lui voudrait faire. Alors peut-être qu'il va lui falloir un arc pour mettre les choses en place et se lancer.
Je sais pas, mais
On
le
verra
problème c'est
bien.
que pour le moment il est censé être là que jusqu'au numéro 100 et que bah, ça va être arrivé. Hein.
Voilà, oui, c'est le problème. C'est que
Ça va vite
s'il arrive à
arriver.
se lancer quand il doit arrêter, ça va être un petit peu embêté. Quant à Daredevil, je plus sois. C'est vraiment
De toute façon,
excellent.
le triptyque hein, chez Marvel, hein, Daredevil, Thor, Venom, enfin voilà, vous avez le top 3 là,
Ouais,
de ce
voilà.
qui se fait, de ce qui se fait chez Marvel de mieux, enfin clairement, voilà, vous prenez n'importe laquelle des trois séries, ça va être un truc assez incroyable. Et puis on a eu deux petites
Ouais, c'est
maisons.
vrai que c'est des séries qui baissent pas de niveau. Enfin, Thor, ça a que commencé. Mais c'est vrai que Daredevil, ça va faire un. S'il continue comme ça va faire un run vraiment
Assez fou.
légendaire. Hein.
C'est fou, assez fou. Et puis deux numéros anniversaires chez DC, forcément je suis obligé d'en dire deux mots, le Flash 750. Très réussi, comme quoi on peut faire des numéros anniversaires qui soient réussis. Franchement, qui va chercher du côté du passé, du côté de l'avenir, qui va nous projeter un petit peu sur les événements à venir, les parties scénarisées par Williamson, voilà, s'intègre parfaitement à son run, vont puiser dans tout ce qu'il a fait depuis le début, et il en a fait déjà un paquet de numéros, hein, on n'empêche le père Williamson. Et il nous projette dans le futur en utilisant des personnages du passé, dont un certain Jay Garrick. Voilà, franchement ça fonctionne. Ce numéro anniversaire il fonctionne. Moi j'étais plutôt surpris, je l'ai pris avec crainte et finalement ça fonctionne bien, tout comme le Robin, numéro spécial 80e anniversaire. Plein de petites histoires, alors là clairement plus anecdotique, hein, ça va pas bouleverser la continuité. Mais ce que j'ai aimé c'est que tous les Robins sont présents et que chaque version, chaque personnage qui a incarné Robin a droit à une petite histoire. Mais une petite histoire par identité qu'il a eue dans l'histoire de DC. C'est-à-dire que Dick Grayson, il a droit à une histoire sur Dick Grayson Robin, une histoire sur Dick Grayson Nightwing, une histoire sur Dick Grayson Agent 37, etc. pour tous les Robins. Donc ça fait un numéro assez complet avec plein 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 de petites histoires. C'est sympa, ça fonctionne. Pas mal de petites datas à la fin aussi sur vraiment la chronologie de ces 80 années, comment les Robins se sont succédés les uns aux autres. Voilà. Il y en a juste une qui n'a pas droit à sa petite histoire, c'est Carrie Kelley, mais à la rigueur, je suis plutôt content parce que je ne l'aime pas. Donc voilà, moi du coup ce numéro anniversaire m'a bien plu.
Juste un mot aussi, puisqu'on parlait de Zdarsky sur Daredevil. Je suis la mini X-Men Fantastic Four, dont on a un peu parlé, Erwan, qui était intéressé par le TP.
Oui.
Malheureusement, c'est pas du niveau de Daredevil. Hein. Je trouve que c'est assez poussif comme mini-série. Zdarsky maîtrise bien l'unité, quoi. Il utilise bien ce qui se fait chez les X-Men et chez les Fantastic Four par Dan Slott et Jonathan Hickman notamment. Par contre, en termes d'écriture, je trouve ça assez vieux. Je trouve qu'il y a des. Voilà, ça manque de rythme, c'est pas très passionnant. Il y a, dans les deux numéros, à chaque fois, il y avait eu une baston. On avait l'impression de voir une baston des années 80. Je trouvais que c'était pas fluide du tout. Assez déçu quand même. J'irai jusqu'au bout, parce qu'il y a quatre numéros. Donc, bon, j'en ai appris deux, je vais pas m'arrêter là. Mais je reconnais pas le Zdarsky
Ok.
que j'aime sur Daredevil. Donc, petite déception là pour l'instant. On verra à la
Est-ce que
fin,
c'est
je ferai un bilan.
rattaché aux X-Men?
Bah, il utilise les personnages qu'on retrouve dans les séries X-Men et leurs caractérisations telles que Hickman et les autres scénaristes les font. Mais oui, il faut avoir lu quand même le dernier relaunch et une partie des séries. Alors moi, je lis pas toutes les séries, donc je suis pas perdu, mais faut quand même avoir un petit peu lu et savoir où c'en est, quoi.
Ok, et bah écoute, du
Ouais,
coup.
je ferai un bilan quand j'aurai fini, quand ça sera terminé.
Du coup,
Mais pour
j'irai
l'instant,
peut-être pas non
pas,
plus.
ouais, pas, pas, pas coup de cœur du tout. Hein.
Ok. Et Suicide Squad alors, cette
Ça
version?
Ça, par contre, coup de cœur. À mon grand étonnement, mais c'est Tom Taylor, donc pas forcément étonné. Donc, c'est lui qui a repris cette série Suicide Squad, qui, les années d'avant, n'avait pas proposé quand même grand-chose de très intéressant. Là, il est avec Bruno Redondo, avec qui il a fait pas mal d'épisodes de Injustice. Et la bonne idée qu'il a eue, si on peut dire, au début, dans le premier épisode, c'est qu'il s'est débarrassé d'une grande partie des anciens membres de la Suicide Squad précédente. Il a juste gardé Harley Quinn et Deadshot. Forcément, il faut quand même vendre un peu. Et il a introduit de nouveaux vilains qu'on ne connaissait pas et qu'il n'a pas forcément hyper développé dès le début. On s'est dit, il va pouvoir, ça va être de la chair à canon, quoi. Il va les faire zigouiller un par un. Ça a été un petit peu ça au début. Et puis finalement, à partir du 2, il a bien retourné le truc, puisque c'est pas du tout ce à quoi on s'attend, puisque la nouvelle équipe est bien plus maligne que ce que on peut imaginer et complote à son tour dans le dos d'Amanda. Amanda, alors je sais pas si. Voici, le 1 est sorti depuis longtemps. Amanda n'est plus dans le jeu. Donc,
je suis tellement pas du tout cette série que.
Non, c'est un nouveau, d'accord. Nouveau dont j'ai oublié le nom, mais c'est un nouveau méchant, très méchant, qui lui aussi, on va le voir au fur et à mesure, est peut-être pas aussi fort qu'on peut l'imaginer, aussi dominant. Mais à chaque fois, là, bon, j'ai pas lu le 4 puisqu'il n'est pas encore arrivé, mais dans le 2 et le 3, surprise sur surprise, avec okay. Cliffhanger super, super malin qui vraiment donne envie d'aller voir la suite. Donc, ouais, moi j'aime plus que DC. Alors DC, j'ai trouvé ça sympa, mais sans être excellent. J'avais lu Injustice, je crois que bon, il y a que 4, j'ai lu que 3 épisodes, mais dans l'ambiance et la construction, je trouve que c'est plus sympa, mieux fait. Donc c'est pour moi c'est vraiment bien parti. Je vais continuer à suivre.
Dommage qu'il y ait Harley Quinn.
Le 4. Mais elle est pas hyper présente. Alors elle l'utilise pour faire de l'humour surtout, un peu. Mais en fait, elle est pas hyper présente. C'est au final, c'est pas mal les nouveaux personnages qui interviennent. Okay. Donc voilà, ils l'ont gardé parce que sinon ça aurait pas fait vendre, hein. Au moins en tout cas. Mais voilà, alors je le refeuillette, on la voit pas beaucoup en fait, hein. Elle intervient peu. Non, c'est surtout les nouveaux personnages qui sont présents. Donc bonne surprise.
Bien, à surveiller du coup. Allez, on va passer à la partie VF cette fois-ci. On a juste deux petites news qu'on va faire très 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 rapidement. Panini qui change sa grille tarifaire, c'est quand même une petite révolution. Donc on est obligé d'en dire deux mots du coup.
De dingue. Après ça reste, oui, ils ont un peu écouté je pense les lecteurs, et je pense qu'ils ont vu aussi les ventes fondre un peu quand même, hein. Vu les tarifs qu'ils proposent, il y a pas mal de gens quand même qui ont dit qu'ils arrêtaient certaines collections ou certains titres. Et puis ça paraissait logique, enfin, de vendre une intégrale de 180 pages à 35€, c'est ridicule. Enfin, tout le monde s'en est rendu compte à part eux. Donc ils ont refait, ils en ont annoncé au fur et à mesure. Ils ont commencé par les omnibus, je crois, après les intégrales, les deluxe. Ouais. Pour l'instant, je crois qu'on en est là. Hein. Ouais. Donc bon, ça reste quand même un petit peu cher, on va dire.
Oui, malgré tout, ça reste cher, mais au moins il y a l'effort. Voilà.
Il y a l'effort d'aplanir un peu, de lisser les tarifs. Et donc de ne pas avoir vraiment l'impression de se faire totalement flé, si je puis me permettre, pour ces intégrales ou ces deluxe à pagination un peu réduite.
Ouais, ouais.
Intéressant.
Ouais, ouais. Tu avais mis une news sur les sorties de l'été 2020 chez Urban. Je propose qu'on attende une prochaine émission de savoir un petit peu quand est-ce que la vie va reprendre et de savoir ce qu'ils vont faire des sorties qui étaient prévues, etc. Parce que du coup, ça va tellement bouger que. On va annoncer des trucs qui sortiront pas et tout ça, donc on va.
Voilà. Mais ils avaient dans les cartons.
De belles choses.
De quoi nous faire dépenser.
Oui. Bon, ça arrivera, hein, de toute façon, vu que ça a été annoncé, mais voilà. On attendra d'avoir les vraies nouvelles dates et le vrai nouveau calendrier pour pouvoir détailler tout ça. Et puis, on va juste dire deux mots quand même de cette période et du fait que tout se soit arrêté en librairie, etc. Et pourtant, les éditeurs continuent. Continue à être présent à nos côtés et à nous proposer des choses et même à faire preuve de pas mal de générosité, que ce soit Delcourt, Urban, Ankama, Aquileos, enfin tous font soit de très grosses promos sur les versions numériques de leurs albums ou alors en offrent carrément de grandes parties, voire même des albums entiers, hein, je pense au cahier de vacances du label 619 qui a été mis à disposition gratuitement en téléchargement. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez tester chez Bliss. Il y a énormément de pages, de gros morceaux de leurs intégrales qui sont dispo, et ils ont même rajouté des choses gratuites en ligne. Donc voilà, vous avez l'occasion en cette période aussi, si vous n'êtes pas réfractaire à la lecture en numérique, de découvrir pas mal de choses en digital.
Tout à fait, oui. Ou comme moi, de tenter d'épuiser votre pile de lecture.
Ou de tenter d'épuiser votre pile de lecture, ouais.
Qui touche le plafond. Donc,
ah oui, quand ça... même. Belle
pile. j'ai pas essayé comme ça, mais je pense que si, ouais, si je fais une pile, ça touche le plafond. C'est embêtant.
Presque autant que celle d'Erwan il y a quelques mois quand il nous l'avait montré.
Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas participé à ce petit concours.
Allez, on va faire quelques chroniques VF. Et un truc qui a bien fait diminuer ta pile à lire, Erwan, c'est les 6 volumes 6 de Lock and Key.
Oui, et encore, elle n'a pas fait diminuer la pile puisque je les ai achetés au fur et à mesure. Donc, c'était des rajouts volontaires de lecture.
Bon, en tout cas, tu as enfin lu ça et on a hâte de savoir.
Et c'était fou. C'était magistral. C'était excellent.
N'est-ce pas?
La série à côté, la série télé, c'est adaptation, mais ça survole absolument rien en fait. C'est que la série est vide en comparaison des bouquins.
Oui.
Parce qu'adaptation.
Oui, c'est pas du tout la même case.
Ah non, pas du tout. Et tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'à la base, je ne voulais pas lire ces Lock and Key à cause du style graphique qui me dérangeait.
Ouais, Rodriguez,
et
ouais,
c'est particulier. Je ne sais pas pourquoi, finalement, ça s'est débloqué. Alors, je ne sais pas si c'est la série, si c'est l'envie de lire ces bouquins pour découvrir que ça a débloqué. Mais avant, je ne pouvais pas du tout regarder. C'est-à-dire que je regardais, c'était même pas la peine.
Les visages, moi, le visage surtout. Hein.
Bah au final non, je trouve pas ça. Je trouve que ça va très bien avec le style en fait.
Non mais pour quelqu'un qui le lit de l'extérieur, je pense que c'est les visages qui sont peut-être le plus particulier.
Ouais.
Mais après une fois qu'on est dedans, ouais, ça colle.
Ouais, et puis quand tu prends des pages au hasard, tu tombes sur des choses un peu particulières, donc ça peut aussi faire un peu peur. Mm. Mais les 6 tomes se lisent très bien en fait, et en plus, en lire un par un, c'est compliqué. Je sais pas comment vous avez fait, si vous les avez lus en single, ça va être affreux d'attendre la suite.
Non, j'avais lu des recueils, ça fait un petit paquet de temps déjà, hein, quelques années. Mais quand j'ai fait ma relecture, ouais, j'ai fait les 6 d'un coup, ouais.
Ah ouais, non, c'est
impossible.
Ouais, lire un par un, c'est impossible. Il y a trop de suspense. T'as envie de savoir à quoi correspond chaque clé.
Oui.
C'est vrai que les clés, en fait, c'est vraiment le truc principal qui est intéressant dans ce truc-là, quoi.
Et puis, il arrive toujours en fin de tome à nous faire un truc qui fait que de toute façon, t'es incapable de pas prendre le suivant tout de suite. Il
ouais.
y a toujours le petit cliff. Enfin, voilà, à la fin du 3, à la fin du 4, il y a quand même des trucs assez fous et t'es obligé de continuer. Enfin, en termes d'écriture, c'est brillant. Joel, vraiment.
Ouais, comme son père, il maîtrise très bien le sujet de l'écriture.
Ouais.
Il a une suite en fait. Là, je peux pas. La fin est bien, la fin est nickel et inattendue parce que clairement,
oui.
la toute fin, la résolution, je m'y attendais pas du tout. J'ai complètement zappé cette idée-là et c'est génial en fait.
Oui.
Et non, tout est bien en fait. C'est tout.
Mais en fait, c'est ça quand on a une œuvre comme ça aussi parfaite et addictive et parfaite, même sur sa conclusion. On est tiraillé entre le côté addictif, c'est-à-dire qu'on en veut encore, on aimerait en avoir encore, on aimerait en lire encore plus sur tout ça, sur le passé, sur la suite éventuellement, etc. Mais en même temps, on n'a pas envie, parce qu'on a un peu peur que cette espèce de petite perfection en 6 volumes, là, elle soit gâchée.
Non, et puis en plus, ils ont vraiment développé un truc propre avec tout l'historique, la création des clés.
Le journal, ouais.
Ah ouais, non, c'est vraiment bien travaillé, quoi.
Ouais.
C'est carré, ouais. Effectivement, moi je l'ai lu en VF. Il avait ressorti il y a, je sais plus, quelques années, je crois.
Ouais, il a été ressorti plusieurs fois, donc.
Ouais, bon, ça doit être la dernière fois que je l'ai pris. J'avais pris les deux premiers parce que j'en avais entendu parler et j'ai lu les deux premiers à la suite et après j'ai commandé les 4 suivants et j'ai tout lu à la suite. C'est vrai que c'est génial. Vraiment, ouais, c'est... bourré d'idées, super inventif, super bien écrit. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit, il y a rien qui fait tiquer, quoi. Tout est fluide et bien vu et voilà, à aucun moment on se dit, oh, ça aurait pu être mieux comme ceci, comme ça.
Non.
Là, non, il n'y a rien à dire. Mm-hmm. C'est vraiment. Les dessins, moi, ne m'ont pas gêné spécialement. Je suis rentré dedans. C'est vrai que ça ne fait pas classique, quoi. C'est pas un dessin très classique, mais ça va parfaitement avec l'histoire.
Oui.
Et voilà, les idées graphiques sont vraiment bien vues, quoi. Et je comprends, moi, je n'ai pas vu du tout la série, hein, vous vous en doutez.
Oui, on s'en doute, oui.
J'imagine que. J'imagine que ça doit être impossible à adapter en termes de.
C'est compliqué, c'est compliqué. Et forcément, quand on a lu le comics avant, ce qui était manga, On a à chaque fois une petite déception quand on découvre une nouvelle clé, et notamment la clé de tête. Moi, ça a été ma plus grosse déception, et c'est vrai qu'on a un peu de mal à passer outre. Mais une fois qu'on accepte que c'est deux choses différentes, bah du coup, on apprécie d'autant plus l'adaptation. Et voilà, il a fallu très vite que je fasse ce switch dans ma tête et que je me dise, ne t'attends pas à lire, enfin à voir en image ce que tu as vu, ce que tu as lu. De toute façon, tu vas être déçu, donc prends-le comme un truc, comme si c'était nouveau. Et dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux. Et moi, j'ai du coup beaucoup plus accroché à la série qui m'a bien plu, notamment le dernier épisode qui, du coup, prend le choix de prendre un chemin complètement différent de la version papier, qui certes nous resserre quelques recettes qu'on a pu déjà voir ailleurs, mais bon, ça reste assez efficace malgré tout.
Et pourtant, c'était adaptable facilement. Hein. Quand on regarde,
Oui.
moi, pour avoir commencé par la série et avoir vu le comics, à chaque fois que je lisais, je me disais, ah, c'est comme dans la série. Ah, ils auraient pu le faire, ça, finalement, c'était pas trop mal. Et y a, en fait, ça, la série n'était pas ambitieuse, je trouve, par rapport à ce qui était faisable. Ça manquait vraiment d'ambition.
Il y a peut-être de
Ça restait
moyens
trop
aussi.
familial. Bah, pour certains trucs, oui, la clé Titan, je suis d'accord que financièrement, les effets spéciaux, c'est bonbon.
Ouais.
Puis c'est compliqué à mettre en place dans un univers qui se veut un peu réaliste. Parce qu'ils n'ont pas été trop sur la magie.
Même la clé de tête, hein, il était plus
Voilà.
facile de la montrer comme ça que comme elle aurait dû être.
C'est peut-être moins choquant pour les
Aussi,
jeunes, le jeune
aussi, ouais.
qui va regarder.
On a voulu peut-être être trop mainstream avec ça, effectivement.
Bah, Netflix.
Oui, tout à fait. Et toi, Boris, tu as lu du Comics Initiative, toi?
Ouais, j'ai reçu mon colis. Donc j'avais reçu Canon de Hollywood, donc j'ai fait une review sur le site, qui était une belle surprise, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Si vous aimez les femmes nues, je vous le conseille. Bon,
Oh,
non, c'était une
super!
blague.
J'en rêvais.
C'est vrai? Bon, j'ai réussi à le convaincre. Non, c'est une. C'est bien plus nuancé. Vous allez voir la review. J'ai reçu aussi Rover et Charlie de
Ouais.
Garth Ennis et Michael DiPasquale, ainsi que Caliban de Garth Ennis. Et je me souviens plus du dessinateur, je ne l'ai pas lu encore. Donc ça, je vais le lire bientôt. Et là j'ai fini Rover et Charlie. Alors Rover et Charlie, c'est un récit post-apocalyptique sur la Terre où quasiment tous les humains sont morts et ceux qui ne le sont pas s'entretuent. Et on va suivre donc les canins, les chiens qui restent et qui eux ne subissent pas. Alors on ne sait pas, il n'y a pas d'explication. Hein, on ne sait pas pourquoi les humains meurent ou s'entretuent. C'est pas le but en fait. Et on va suivre donc trois chiens qui vont se retrouver, donc Rover, Red et Charlie, qui ont chacun des caractères bien bien différents dans une aventure où ils vont, bah, il faut survivre, il faut arriver à s'en sortir, bien que les humains qui était leur maître auparavant ne soit plus là et faire face à toutes ces catastrophes. Alors c'est un petit peu long à démarrer, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans ces six parties. J'ai pas, voilà, au début j'étais pas à fond dedans quoi. Je trouvais que c'était un peu dur. Et puis ensuite, une fois qu'ils partent sur un road movie, on va dire, à travers les États-Unis, là ça rentre bien dedans. Et puis ça, c'est le final surtout, qui est le dernier épisode, qui est à la fois hyper violent et hyper touchant, qui vraiment marque et touche le lecteur. Ce qui est impressionnant, c'est la façon dont Garth Ennis arrive à faire passer les sentiments des animaux, parce que c'était pas évident quand même de faire parler des animaux qui ne parlent pas, évidemment. Donc il a choisi un vocabulaire un peu simple mais hyper parlant. Par exemple, les maîtres des chiens, il appelle ça les nourrisseurs. Voilà, des choses qui sont, c'est un mot simple mais qui permet de comprendre ce genre de choses. Et le dessinateur, Michael DiPasquale, que je sais pas. Connaissais pas, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, j'ai rien lu de lui, et qui arrive parfaitement à retranscrire les émotions des animaux, des chiens, et qu'on saisisse bien leurs expressions. C'est assez bluffant de ce côté-là. Donc une bonne lecture, j'ai trouvé ça assez sympa. Bah, c'est du Garth Ennis, donc il y a du trash un peu quand même, mais ça reste par rapport à, voilà, il y a un ou deux passages bien trash, et puis le reste, ça reste quand même soft par rapport à ce qu'il a pu faire dans d'autres séries. C'est drôle aussi, il y a des moments assez marrants, et puis surtout la fin, quoi, qui est vraiment très touchante. Beaucoup d'émotions sur la fin, c'est assez marquant. Donc une bonne lecture, et puis la version Comics Initiative, c'est un format souple, avec une couverture semi-cartonnée, et plutôt belle édition, et qui convient bien à ce genre de récit, quoi. Ça va bien avec l'ambiance du titre. Donc une bonne lecture.
Ok, parfait. Et là, par rapport au conducteur, on est arrivé au terme. Peut-être qu'on a encore un truc en VF, je ne sais pas.
Non.
Non. Eh bien donc, on est arrivé du coup au terme de ce dont on devait parler. Votre pile à lire, j'imagine, est assez dense. Elle contient peut-être moins de nouveautés, puisqu'on n'a plus trop de nouveautés en ce moment. On risque de plus en avoir pendant encore quelques semaines. Quelles sont vos prochaines lectures pour les jours ou peut-être semaines de confinement qui nous restent?
Alors moi je vais lire Caliban, ça c'est prévu. J'ai récemment acquis l'omnibus Namor de John Byrne qui fait plus de 1000 pages.
Oui, puis John Byrne, c'est bavard, donc oui, je pense que
Voilà.
tu peux faire ton confinement tranquille, c'est bon.
Donc là, rien que celui-là, ça va occuper une bonne partie de mon temps. J'avais bien, si j'ai commencé Second Coming de Mark chez Aoi, qui avait fait polémique puisque c'est le comics sur Jésus, si on peut résumer ça comme ça.
Oui.
J'en suis à la moitié et franchement, c'est super drôle, super sympa, bien fichu et très très fun. Donc une petite critique va arriver bientôt, je pense.
Ok.
Il me reste un TKO à lire aussi que j'ai pas lu, The Banks, que j'ai toujours pas lu. Voilà, je vais essayer de rattraper quelques lectures de ce type.
Très bien, et toi, Erwan?
Alors moi, je suis pas dans la finesse, hein, c'est-à-dire que j'ai
Non,
que
bah
des
non.
gros trucs à lire. J'ai The Ultimate, l'omnibus par Mark Millar et Brian Hitch. J'ai le Spider-Man Miles Morales de Bendis et Piccoli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Red Hood New 52 en omnibus. Le Daredevil de Mark Waid volume 1 en omnibus. Et New
Très bien.
Frontier. Et les The Boys aussi, il faut que je me fasse absolument.
D'accord. Tu es au
J'ai les
courant
6
que ça va
volumes.
être encore 4 ou 5 semaines, on parle pas de mois hein, pour le confinement. C'est juste
Oh.
des semaines qui te restent.
Ça va se faire. Entre deux cueillettes de fraises, ça se fera.
Mais oui, allez.
Ouais.
Très bien, bah dis donc, gros gros programme. Tu en as d'autres ou pas? Parce que tu t'es peut-être interrompu dans ta liste.
Oula, j'en ai beaucoup, mais trop long
Mais
pour faire la
déjà,
liste.
déjà ça sera pas mal. Ok, moi je vais peut-être me pencher sur rattraper un peu les Midnight Tales de Mathieu Babelais et compagnie dans le label 619 là. Ça m'avait bien chauffé sur le premier et puis bah, j'en ai un ou deux autres là donc je vais me les faire et puis après bah ouais je vais replonger un petit peu dans l'ancien peut-être le run de Bendis là, que j'ai en single peut-être sur Daredevil. Peut-être me faire ça, ou le Superman de Byrne, je sais pas, j'ai pas mal de trucs là, de vieilleries qui traînent, enfin qui traînent, qui sont bien soigneusement rangés avec moult pochettes et tout, dans mes box là, en VO, des vieux trucs, donc je pense que ça va surtout être ça là pour les semaines à venir. J'ai encore quelques titres un peu récents, genre le dernier TP de Oblivion Song, le troisième de Dawn of X. Le 2 m'a pas trop plu, donc je suis pas très très chaud pour le 3, mais bon, je l'ai, faut que je lise. Et puis voilà, peut-être les Super Sons aussi. Les bons Super Sons, la première série dans le Rebirth. Voilà,
Tu vas te les refaire.
ouais. On se retrouvera, nous, encore une fois, je pense, dans la période confinée, puisque tu auras un petit podcast où du coup on parlera peut-être plus de choses un peu anciennes, ou ce sera peut-être un extra sur un sujet autre, mais en tout cas, on se refera du podcast d'ici la fin de cette période un peu bizarre. Et puis, guettez un petit peu ce qu'on va vous annoncer éventuellement sur Facebook ou sur Twitter ou l'Instagram de Comic Stories. Il se pourrait qu'on s'amuse un petit peu, qu'on fasse quelques petits jeux entre nous, version comics, et qu'on vous fasse partager tout ça. Donc voilà, guettez un petit peu ce qu'on va vous annoncer. Il se pourrait que vous ayez du son, peut-être de l'image. Enfin, vous verrez, je suis en train de préparer quelques petits trucs là-dessus et on va essayer de vous proposer ça dans les jours et semaines qui viennent. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes lectures, à prendre soin de vous évidemment, hein, n'allez pas faire les foufous dans la rue. Et puis, ou alors sauf si c'est pour aller cueillir des fraises, c'est le seul truc que vous avez le droit de faire. Pour le reste, restez bien tranquille chez vous, lisez, et puis on se retrouve une fois que les choses rentreront un petit peu à la normale. Bonne lecture et à bientôt.